Gauthier Pierson, Monique Olivier, mot à mot. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. C'est avec ces quelques mots parus dans les petites annonces du journal Le Pèlerin en mai 1987 que débute la relation épistolaire entre l'un des duos les plus criminels de France, Michel Fourniret, et celle qu'il épousera à sa sortie de prison, Monique Olivier. Décédé en 2021, l'ogre des Ardennes laisse derrière lui nombre de cold cases dont aujourd'hui, seule Monique Olivier détient la clé. Le psychologue belge Gauthier Pierson a dressé le profil psychologique de celle actuellement incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis, mettant en évidence, selon son expertise, un QI bien moins élevé que celui de 131 établi par son confrère français Jean-Luc Ployer. Mais qui se cache derrière le personnage complexe de Monique Olivier? La réponse du psychologue. Une interview signée Agent d'entretien. Gauthier Pierson, bonjour.
Bonjour.
Alors Gauthier, merci d'être venu me voir.
Avec plaisir.
Donc, on se voit suite à la mini-série qui a été diffusée par la plateforme de streaming Netflix, pour ne pas la citer, consacrée à Monique Olivier, dans laquelle tu interviens. Et je crois que tu as pointé un peu du doigt l'écart qui existait entre le projet qu'on t'avait présenté sur cette série et la finalité du projet, qui est clairement à charge contre Monique Olivier, puisque c'est elle le personnage clé. D'abord, à la vue de cette mini-série, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à ce pourquoi tu avais été interviewé à la base?
La première chose, c'est que par rapport à documentaire que Netflix a décidé de montrer, j'ai absolument rien contre, c'est un choix de Netflix, et ça, je le respecte tout à fait. Par contre, là où je m'écarte un petit peu, c'est par rapport à la production française et par rapport à la réalisation française, où dans la manière dont ça nous avait été présenté, l'objectif était vraiment de venir chercher la personnalité de Monique Olivier au travers de documents qui sortaient un petit peu des canevas habituels de ce qu'on avait déjà pu entendre d'elle et de ce qu'on avait pu entendre de Michel Fourniret. Or, quand on regarde effectivement le documentaire, on a quand même l'impression qu'on s'est écarté de l'objectif initial, qui était véritablement notamment de mettre l'accent sur les lettres et sur l'échange épistolaire entre Michel Fourniret et Monique Olivier, qui a lieu avant leur rencontre et au moment où Michel Fourniret est incarcéré, donc les premiers moments de leur rencontre, qui sont véritablement dénuée de tout enjeu judiciaire à ce moment-là et où finalement Monique Olivier va être la plus prolixe, va verbaliser le plus de choses et va nous révéler le plus de choses sur à la fois l'enjeu du couple mais également sur ce qu'elle est fondamentalement dans son rapport à Michel Fourniret mais aussi dans sa personnalité et dans sa fragilité.
Et c'est vrai que tu pointes du doigt cette relation épistolaire qui est un peu mise sous silence malheureusement dans le reportage. Alors cette relation épistolaire naît par quelques mots qui sont prisonniers, aimeraient correspondre avec la personne de tout âge pour oublier solitude. C'est ces quelques mots qui paraissent dans la rubrique Petites annonces du journal catholique à l'époque Le Pèlerin en mai 1987 que se nouent donc les fils du duo parmi les plus criminels de France, à savoir Michel Fourniret et Monique Olivier, alors que Michel Fourniret purgeait à l'époque une peine de prison pour agression sexuelle. Ces 217 lettres que toi tu as lues et qui sont finalement très peu utilisées dans le reportage, elles contiennent quoi? Elles permettent de vraiment voir cette naissance de cette relation qui va enfler avec le point de vue de Monique Olivier qui va se laisser totalement happer par la personnalité de Michel Fourniret?
Oui, et quelques mots, Nicolas, dont tu parles, qui vont déclencher un véritable tsunami quand on pense aux conséquences de cette rencontre sur base de cette simple annonce de Michel Fourniret à laquelle, effectivement, Monique Olivier va répondre, mais qui va déclencher chez eux un échange véritablement logoréique d'écrits dans lesquels on va découvrir comment Michel Fourniret, progressivement, va véritablement tisser sa toile autour de Monique Olivier et représente ces échanges un enjeu considérable pour comprendre comment le couple machiavélique se forme, mais surtout pour oser poser un véritable diagnostic sur la personnalité de Monique Olivier, parce que c'est véritablement là que les choses se jouent, parce que je le répète, c'est dénué d'enjeux juridiques à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils échangent sans être dans cette imbrication et implication des enjeux judiciaires après avoir révélé certaines choses, et donc à ce moment-là, ils sont libres l'un et l'autre de pouvoir communiquer comme il le souhaite, et on voit à ce moment-là Monique Olivier qui va communiquer beaucoup avec Michel Fourniret, mais on voit surtout aussi Michel Fourniret, à travers sa psychopathie et à travers sa perversion narcissique, comment il va véritablement ensorceler Monique Olivier.
Mais comme tu le dis, Gauthier, c'est dénué d'enjeux juridiques, et pourtant, dès le départ, se crée une espèce de duo comme ça, presque machiavélique, puisque en fait, le but, c'est qu'en sortant de prison, Michel Fourniret règle le compte du mari de Monique Olivier, et Monique Olivier sera chargée, elle, comme lui demande Michel Fourniret, de lui trouver, alors entre guillemets, par respect à la famille des victimes, mais des membranes sur pattes avec cette sacralisation de la virginité. Donc en fait, tout est là dès le départ. Tout est écrit dans les lettres. On sait exactement ce qui va se passer. Comment se fait-il que les lettres n'ont pas été plus utilisées que ça, peut-être pendant l'enquête ou même pendant le procès, les nombreux procès qui a eu lieu ensuite?
Je pense que pour arriver aux conclusions que tu viens d'évoquer, il faut véritablement décortiquer ces échanges en plusieurs étapes. C'est en ça que les échanges épistolaires sont vraiment très très intéressants et très importants. C'est qu'il y a véritablement trois étapes fondamentales dans ces écrits. Quand Michel Fourniret va envoyer cette annonce et que effectivement Monique Olivier va y répondre, très rapidement, la première étape va être une étape de séduction de la part de Michel Fourniret. Il va se présenter comme quelqu'un d'idéaliste, comme quelqu'un de très cultivé, comme quelqu'un aussi qui est là pour la protéger, elle, de sa solitude, parce qu'elle renvoie en permanence une idée de solitude, et qui va être là véritablement pour mettre fin à toute sa souffrance à elle. Et donc, on est dans une étape de séduction, dans un premier temps, où jamais, jamais l'évocation de transgression, ou en tout cas d'acte délictueux, n'est évoquée. La deuxième étape, c'est une étape de culpabilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont commencer à échanger, parce que c'est quasi tous les jours qu'ils échangent, progressivement, Michel Fourniret amène Monique Olivier sur sa vie sentimentale et sur sa vie de couple et les antécédents qu'elle a pu avoir sur le plan conjugal. Et très rapidement, lui va faire valoir l'idée que son idéal et que la femme la plus parfaite qui soit, c'est la femme qui finalement, au niveau de sa sexualité, est restée très pure. Et il va évoquer à ce moment-là la notion de virginité, mais de manière très vicieuse, c'est-à-dire que il ne l'évoque pas comme une obsession, mais il l'évoque comme une vertu en disant qu'effectivement, il y a une certaine forme de déception par rapport à Monique Olivier qui a effectivement perdu sa virginité il y a déjà bien longtemps à l'époque. Et ça, à ce moment-là, il va commencer à orienter son discours autour de la sexualité, mais c'est plus vicieux que ça. Il l'oriente sur la sexualité, mais en même temps sur la noblesse de la sexualité, mais, et pas sur le côté avilissant ou pas sur le côté négatif ou vil de la sexualité. Non, c'est une femme se doit d'être pure, une femme se doit de ne pas se donner à n'importe quel homme, une femme. Et il va reprocher progressivement à Monique Olivier l'idée qu'effectivement, elle n'a pas cette possibilité-là, vu qu'elle a déjà des antécédents sexuels. Et il va aller jusqu'à lui dire qu'il aimerait entamer une relation avec elle tellement elle est parfaite en tout point, sauf qu'il ne peut pas l'entamer, hormis une grande amitié, parce qu'elle a perdu sa virginité et que donc c'est impossible de poursuivre quoi que ce soit sur le plan de sa sexualité. Et c'est très vicieux parce qu'elle est décontenancée par rapport à ça et commence à culpabiliser et commence à justifier le fait que sa sexualité préalable n'a jamais été épanouissante, qu'elle a parfois été malmenée par certains hommes, qu'elle a été même battue, etc. Et Michel Fourniret va en jouer en disant « Ok, d'accord, très bien, mais moi, en tout cas, je n'aurai pas ce que je souhaite de ta part, c'est que tu n'y as pas cette virginité. » Et que donc, pendant 3 ans de notre relation, si jamais nous entamons une relation, il n'y aura pas d'acte sexuel entre nous. Et donc, en fait, il élève au rang de noblesse la sexualité comme si c'était quelque chose de sacralisé et qui ne faisait absolument pas partie de pulsions sexuelles particulièrement morbides comme il a pu les vivre par la suite. Et donc, il rentre dans ce jeu de culpabilisation où Monique Olivier va progressivement justifier et dans le même temps, il est dans la valorisation. c'est une femme exceptionnelle, sauf que elle n'a pas cette virginité. C'est une femme qu'il veut bien protéger contre ces hommes qui lui ont fait du mal, et notamment par rapport au père de ses deux enfants dont elle a perdu la garde et qui la peine véritablement et qui la renvoie, elle, à sa propre solitude, vu qu'elle n'est plus avec ses enfants, etc. Michel Fourniret se présente aussi comme un sauveur. Donc, il dresse un tableau de pureté chez lui et en même temps de sauveur, donc, entre guillemets, d'homme idéal pour Monique Olivier qui se laisse glisser dans ce terrain-là. Et puis la troisième étape, là, ça va être l'étape de la domination et de la suggestion, où progressivement, il va faire valoir la non-virginité de Monique Olivier pour justifier qu'elle intervienne dans son besoin à lui de virginité et qu'elle intervienne dans la possibilité de lui faire rencontrer des personnes qui sont toujours vierges et qui permettraient de racheter, entre guillemets, la faute de Monique Olivier d'être non vierge. C'est très insidieux, c'est très vicieux. La lecture de ces lettres, on n'en sort pas indemne, tellement c'est macabre. Mais c'est macabre du côté de Michel Fourniret. De la part de Monique Olivier, dans son discours, ce qu'elle m'a renvoyé, c'est une projection de pouvoir vivre avec lui, une projection de faire des choses ensemble, une projection de pouvoir... avoir un quotidien ensemble, mais jamais elle ne relève toutes ces notions tendancieuses et vicieuses de la part de Michel Fourniret. Dans aucune lettre de Monique Olivier, on ne va relever ça. Comme s'il y avait un phénomène qui est très très important pour la suite de la description de sa personnalité, qui est le phénomène de dissociation. Elle est en pomme quand on va parler de choses du quotidien, de projections du quotidien à la sortie de prison de Michel Fourniret. Elle est en off quand Michel Fourniret parle de la sexualité et parle de ses projections qu'il peut faire par rapport à la notion de virginité. C'est-à-dire qu'elle ne répond jamais. Il va l'obliger, à un moment ou à un autre, pour réparer entre guillemets sa faute, à faire une confession de 25 pages, 25 pages où il exige que ça fasse 25 pages, durant lesquelles elle doit, elle, véritablement décrire toute sa sexualité depuis sa perte de la virginité jusqu'à son dernier acte sexuel. Comme une espèce de confession qui viendrait la purifier et qui rendrait plus acceptable la possibilité, effectivement, d'entamer une relation avec Michel Fourniret. C'est quelque chose de complètement macabre auquel elle va s'opposer pendant longtemps, mais la culpabilisation est tellement forte qu'à un moment ou à un autre, elle va accepter. On ne retrouvera jamais ces 25 pages de Monique Olivier. Donc, dans les écrits que moi j'ai pu lire personnellement, ces écrits-là n'apparaissent pas. Mais par contre, on voit à quel point Michel Fourniret pousse et exerce une pression considérable sur Monique Olivier par rapport à cet aspect-là. Et donc, pour résumer, on a trois tendances. On a vraiment la séduction, qui est vraiment, de la part de Michel Fourniret, une stratégie fondamentale par rapport à Monique Olivier, parce qu'il sait qu'elle est faible, il la sent tout de suite fragile, parce que très rapidement, elle exprime sa solitude, et très rapidement, lui, il va se présenter comme l'homme idéal qui peut la sauver, etc. On a cette deuxième phase de culpabilisation, et puis on a cette troisième phase de domination, de suggestion par rapport aux projets qu'il a, qui sont particulièrement macabres. Là-dedans, il ne faut jamais oublier que pendant son incarcération, il la demande en mariage au mois de juin, alors que la correspondance, si mes souvenirs sont bons, commence en octobre de l'année précédente. Donc très rapidement, il va la demander en mariage. Dans cette période de séduction-culpabilisation, donc c'est-à-dire il joue un peu sur les deux, je t'en veux d'avoir perdu ta virginité, mais en même temps, je t'aime tellement que je te demande en mariage. Et elle voit là l'opportunité de vivre quelque chose, une vie. Et elle accepte effectivement très rapidement, parce qu'il y a une semaine qui s'écoule entre sa proposition et sa demande plutôt, et l'acceptation de Monique Olivier.
Mais en même temps, la toile est merveilleusement tissée par Michel Fourniret, qui entre précisément dans les méandres de la tête de Monique Olivier, puisque je crois qu'il ne se passe même pas un an entre la sortie de prison et le premier meurtre commis. Donc même si effectivement on sait le pouvoir des mots sur une personne faible ou fragile ou en manque de reconnaissance ou d'amour, on peut quand même légitimement se poser la question comment de tels mots on peut agir sur une femme qui va jusqu'à commettre l'irréparable un an après avec ce meurtre, et puis dans la foulée ils vont faire un enfant, cet enfant qui va leur servir d'alibi et puis d'appât malheureusement pour faire monter les victimes dans la fourgonnette de Michel Fourniret.
Oui, c'est non seulement abominable, et à travers mes propos il ne s'agit pas de dédouaner Monique Olivier, qui est responsable de ses actes et qui doit être condamnée pour les actes qu'elle a commis, mais il y a une véritable emprise qui va s'exercer, ou finalement, la condition pour elle de ne pas être abandonnée, c'est de finalement se soumettre aux attentes de Michel Fourniret, et la condition pour elle de pouvoir maintenir ce qu'elle espère, à savoir sortir de sa solitude, ben, c'est d'accepter ce que lui demande, parce qu'à la fois il a joué sur cette culpabilisation, et en même temps, elle vit dans cette peur de la solitude, en tout cas, à travers les lettres, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent. Cela dit, dans les lettres, jamais elle n'évoquera ce premier meurtre de Mademoiselle Laville. Et lui, par contre, va l'évoquer, un repérage qu'elle doit faire sur un site archéologique, etc. Et lui va d'emblée être très précis dans ce qu'il attend et dans ce qu'il veut. Mais elle ne l'évoque jamais dans ses lettres.
Et tu as rencontré donc Monique Olivier pour établir, entre guillemets, son profil psychologique. Je suppose qu'on ne sort pas indemne d'une telle rencontre, déjà. Comment, toi, tu as vu cette femme que tu as rencontrée dans l'univers carcéral?
Je l'ai rencontré à 8 reprises. Première rencontre est une rencontre très marquante parce que moi, j'ai en face de moi une femme grande, un peu dégingandée, mal à l'aise avec son corps, qui au départ va s'asseoir sur une moitié de chaise, ne sait pas très bien comment se positionner, est très silencieuse, répond très très peu aux questions qui lui sont posées, parfois s'en veut de ne pas savoir répondre aux questions, et donc donne effectivement l'impression de quelqu'un de particulièrement effacé. Ce qu'on aborde avec beaucoup de prudence, évidemment, compte tenu de l'ampleur des faits et de ce qu'on a découvert à la lecture du dossier, on se dit, cette femme, il y a quelque chose qui se cache là derrière tout ça, et on ne peut pas en rester sur cette première impression. Et pourtant, c'est une impression qui va découler pendant les 8 rencontres, ou un petit peu comme cette notion on-off dont je parlais précédemment, hein, c'est-à-dire que quand on va être dans des enjeux de test, quand on va lui parler de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, quand on va discuter un petit peu du quotidien, elle va être en mode on. Et quand on va aborder, par contre, les faits en eux-mêmes, on est en mode off, où là, on a une espèce de silence, de stupéfaction, de stupeur, d'excuses permanentes, et un visage qui, effectivement, est complètement inexpressif, et avec une absence, effectivement, d'empathie, qui est très, très, très perturbante, parce qu'on se dit quand même, si elle révèle les faits à un moment ou à un autre, elle va conscientiser à un moment ou à un autre ce qu'elle a pu commettre, et en tout cas, ce que lui aussi a pu commettre. Et au-delà de ça, on a vraiment une absence de réaction émotionnelle de sa part à elle.
Cette totale absence d'empathie, elle est quasiment surréaliste et horrible à voir dans le documentaire Netflix. Alors pour moi, il est vraiment mis en exergue cette totale absence d'empathie et cette sorte de déshumanisation des victimes lorsqu'on assiste aux fouilles présumée de la petite Estelle Mouzin qui a disparu. On voit aussi bien Michel Fourniret et ensuite Monique Olivier qui indique aux enquêteurs à peu près où devrait se situer le corps, puis un peu plus à droite. Alors on a l'impression qu'ils rentrent tous les deux dans une sorte de jeu et qu'en fait Monique Olivier est presque la copie conforme de Michel Fourniret dans cette sorte de toute puissance. Est-ce que derrière la femme soumise, comme tu laisses penser dans le reportage, il n'y a pas aussi ce côté tout puissant qui fait qu'on est en contrôle de tout en permanence, même de son image?
Oui, c'est intéressant et c'est vrai, tu as raison de le soulever. L'absence d'empathie, le réflexe facile, et quand on voit un peu l'attitude qu'elle va avoir, le réflexe facile, c'est quand même de se dire « mais elle est aussi diabolique que lui ». Si pas plus à travers justement son statut de femme et son statut de mère qui aborde les choses avec une froideur extrême et cette totale absence d'empathie. On peut s'arrêter là, mais on peut aussi s'autoriser à dire on doit peut-être comprendre un peu plus, de manière un peu plus large ce qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, il y a les enjeux véritables de la justice et il y a surtout que chaque fois qu'elle va se retrouver confrontée à Michel Fourniret, elle adopte finalement la même attitude que lui, et il y a une attitude de mimétisme. Quand elle n'y est plus confrontée, elle essaye de s'en différencier. Quand elle y est confrontée, elle adopte cette attitude de mimétisme qui est particulièrement heurtante, particulièrement choquante. Et de nouveau, sans vouloir tout remiser sur les lettres nous montrent que la domination devient suprême de la part de Michel Fourniret et devient le mode de conduite de Monique Olivier aussi. C'est ce que dicte Michel Fourniret devient Monique Olivier. Et véritablement, c'est très saisissant parce qu'il y a chez elle un phénomène qui, moi, m'a toujours posé question et qui d'ailleurs a fait l'objet lors du documentaire de beaucoup d'investigations, mais qui n'ont pas été plus loin parce qu'ils ont voulu prendre une autre tournure, qui est le processus de dissociation dans une personnalité. C'est-à-dire que une personnalité, on va pouvoir rencontrer ça d'ailleurs dans certains spectres autistiques. Hein. C'est une question qui se pose d'ailleurs par rapport à Monique Olivier. Il y a des tests ici dernièrement qui viennent d'être faits par rapport à elle, dont les résultats ne sont pas encore connus actuellement, mais on se pose quand même la question d'un spectre autistique. Et il y a aussi le processus de dissociation qui peut intervenir dans des événements traumatisants. La dissociation, c'est véritablement une personnalité qui va, un petit peu comme je le disais, on-off, pouvoir être ancré dans une réalité à un moment ou à un autre, et puis cette réalité étant tellement violente, je vais adopter une toute autre attitude, et qui est notamment une attitude de dénégation, c'est-à-dire je mets ça dans un bloc, et il est tellement devenu hermétique que moi-même, revenir dans ce bloc, je n'y arrive pas parce que je dénie complètement. Je n'y arrive pas ou je ne veux pas y arriver. Et ça, c'est des questions qu'on se pose effectivement quand on voit son attitude. L'opinion populaire, et je la comprends, hein, et je pense qu'elle est légitime quelque part à travers nos émotions, c'est quand on voit une femme réagir de cette manière-là, on ne peut que être heurté par son attitude et on ne peut être que scandalisé et outré en se disant « mais qu'est-ce qu'il y a d'humain ?» Et ça, c'est l'opinion populaire. Le rôle de l'expert, c'est quand même aussi d'essayer de sortir de ça et ne pas se cantonner à ça pour essayer de retranscrire et d'expliquer ce qui se passe réellement, même si ça ne plaît pas forcément à l'opinion populaire, même si ce serait plus facile pour moi de dire qu'effectivement cette femme est juste abominable et qu'elle est aussi diabolique que Michel Fourniret. Mais ce serait sortir un petit peu de mon éthique et de ma déontologie que de le faire à partir du moment où on a d'autres éléments qui nous montrent. Et c'est assez éloquent, et j'enchaîne peut-être sur d'autres questions, mais qu'on n'ait pas suffisamment donné de place aux lettres qui étaient écrites entre eux, parce que ces lettres, effectivement, auraient servi auraient permis d'avoir une base beaucoup plus solide sur la compréhension de la manière dont ce couple s'est formé, donc la personnalité du couple, finalement, et la manière dont elle réagit, donc sa personnalité à elle. Mais effectivement, quand on voit les faits et quand on observe son attitude avec la connaissance des faits, tout est biaisé, finalement. Tout est biaisé. Et oui, on souhaiterait qu'elle s'effondre. On souhaiterait qu'elle dise « c'est abominable ce qui s'est passé ». On souhaiterait qu'elle dise « il y a encore d'autres corps cachés, je vais vous dire où ils sont », etc. Tout le monde le souhaiterait, moi en premier, bien évidemment. Mais ce n'est pas tenir compte de tous ces enjeux de personnalité.
Et alors, je dois le préciser, hier, j'ai interviewé Jean-Luc Boyer, psychologue qui intervient aussi dans le documentaire Netflix. Et lui avait exprimé dans une interview son doute comment ça allait se passer quand l'un des deux, les époux Fourniret, puisqu'ils étaient mariés à l'époque, allait décéder. Michel Fourniret est décédé en 2021. Monique Olivier purge actuellement sa peine de prison à Fleury-Mérogis. On pouvait peut-être penser qu'une fois sorti des griffes de la puissance psychologique de Michel Fourniret, peut-être Monique Olivier allait parler, allait raconter ce qu'elle savait. On a l'impression qu'elle se terre dans son mutisme. Est-ce que tu penses qu'il y a la moindre chance aujourd'hui qu'elle fasse des révélations quant à savoir où effectivement se trouve le cadavre de la petite Estelle Mouza? Et puis je sais qu'il y a une période de 10 ans blanche quasiment dans le couple Monique Olivier Michel Fourniret pendant lesquelles aucune victime n'est référencée. On imagine qu'il y a des cold cases. Est-ce que tu penses que un jour elle va parler?
Je n'en suis pas certain. Quand bien même elle connaît effectivement ou qu'elle a des éléments tangibles, je ne suis pas certain qu'elle le fasse, non pas par intérêt personnel, mais parce qu'elle poursuit véritablement son cheminement de peur et de dénégation par rapport à la personnalité qu'elle nous a toujours montrée. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ça, c'est un élément. L'autre élément, je crois que fondamentalement, il y a des éléments qu'elle ne sait pas plus et dont elle n'a pas connaissance. Il faut quand même savoir que Michel Fourniret enterrait effectivement certains corps en sa présence et puis de manière très macabre allait les déterrer pour les placer ailleurs. Et donc elle n'avait pas connaissance de ces éléments-là. Maintenant, la connaissance du nombre d'actes que Michel Fourniret a commis et du nombre de meurtres qu'il aurait pu commettre, je n'en sais rien, c'est une énigme, mais c'est une énigme qui reste autant énigmatique dans le côté diabolique que dans le côté d'une personnalité particulièrement complexe qu'on essaie de comprendre.
Un autre passage assez ahurissant dans ce reportage, c'est les dialogues qu'il y a entre l'avocat de Monique Olivier et Monique Olivier en prison. Et on entend une femme perdue, une femme qui, visiblement, ne comprend à peine ce qui lui arrive, veut qu'on la laisse tranquille dans des affaires meurtrières ou combien dramatiques pour les familles. Est-ce que toi, tu penses qu'elle ne comprend pas, qu'elle est, elle ressemble à la poule lobotomisée, comme l'a qualifié Michel Fournier lui-même? Ou est-ce qu'elle n'est pas un peu dans une posture par rapport au fait de vouloir se détacher de ces meurtres et en fait de s'en laver quelque part?
J'ai l'impression qu'il y a les deux à la fois. Il y a une volonté de détachement, de ce rapprochement systématique qu'on peut faire entre elle et Michel Fourniret, et en même temps, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que elle, dans son mode de fonctionnement, tout ça, elle voudrait que ça n'ait pas existé, sans doute, et donc ça n'existe quelque part plus dans sa tête, parce qu'elle a ce besoin de se représenter autre chose d'elle-même, et cette fameuse dissociation ou cette fameuse attitude de dénégation fait que c'est parce qu'on lui rappelle qu'elle est obligée de s'y replonger, mais sinon, elle n'est pas ça. C'est un petit peu ce qu'elle nous renvoie en permanence. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs je pense que dans le documentaire, elle le dit, c'est qu'elle ne veut surtout pas qu'on la rapproche et qu'on l'amalgame à Michel Fourniret. Et donc, il y a une volonté de détachement aussi. Hein. Donc, elle essaye effectivement là de sortir un peu de cette image et de, finalement, du couple diabolique en disant non, moi, j'en fais pas partie. Quoi. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est légitime qu'elle essaye d'en sortir.
Tu parlais de ce couple diabolique. C'est vrai que la thèse de Jean-Luc Poyer qui a établi comme toi le profil psychologique de Monique Olivier et son QI, qui lui a établi un QI de 131 qui est très très élevé puisqu'il représente à peu près 2% de la population, donc qui est très loin de l'image véhiculée par Monique Olivier dans le reportage. Dans le reportage, on vous oppose entre guillemets tous les deux, entre toi qui a établi un QI de 96 qui est largement dans la moyenne et un QI de 131 qui est destiné aux surdoués. Là aussi, comment on peut expliquer cet écart? Jean-Luc Poyer dit, lui, qu'il a fait faire ce QI par plusieurs personnes, qu'il a établi entre 129 et 131, toi à 96. Est-ce que là aussi, diamétralement, il y a deux oppositions, donc deux schémas totalement différents? Une femme surintelligente qui joue la poule lobotomisée et de l'autre côté, une femme peut-être qui a été complètement coupée du monde par un homme machiavélique qui lui a totalement dévoré le cerveau. Comment tu peux expliquer ça? Ce qu'on voit d'ailleurs plus que malheureusement les lettres, qui est un des faits marquants dans le reportage de Netflix.
Ouais. Oui, je ne me l'explique pas, Nicolas. J'ai envie de te dire, je sais juste dire que moi, personnellement, effectivement, j'ai réalisé ce quotient intellectuel de manière tout à fait individuelle. Je pense que Jean-Luc Poyer, contrairement à ce qu'il peut dire, ne l'a pas réalisé du tout. Il l'a fait réaliser par d'autres personnes. Pourtant, il le défend bec et ongle. Moi, je n'ai rien contre le QI de 131. Je n'ai rien contre le QI de 96. Je pense qu'il y a eu une troisième évaluation à un moment ou à un autre qui tombe au milieu, un peu comme un espèce de compromis entre 131 et 96. Je ne sais pas si c'est l'enjeu. Je pense, par contre, que ce QI de 131 a été l'occasion pour beaucoup de plonger dessus et de lui donner du crédit à ce QI de 131 sans non seulement se poser la question d'une fiabilité de ce quotient intellectuel. Je ne défends pas ma cause, hein. Je peux accepter qu'on soit passé à côté de quelque chose et que j'ai été manipulé par Monique Olivier qui s'est présentée plus bête, puisque c'est souvent ce qu'on m'a dit, hein, que ce qu'elle n'était, et que Jean-Luc Poyer était, lui, par contre, beaucoup plus apte à venir chercher un peu les subtilités intellectuelles de Monique Olivier. Ça, j'ai rien contre. Mais est-ce qu'un quotient intellectuel de 131 détermine une personnalité? Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu. C'est que j'ai l'impression, quand on écoute le documentaire notamment et quand on écoute M. Poyer, que finalement, ce quotient intellectuel de 131 vient justifier quand même beaucoup de choses et vient quand même étoffer la possibilité qu'effectivement cette femme soit partie particulièrement diabolique dans son mode de fonctionnement, etc. Parce que le lien, il est quand même souvent sous-entendu. C'est-à-dire que si on accorde autant d'importance à ce quotient intellectuel, c'est qu'on sous-entend quand même que parce qu'elle a un quotient intellectuel de 131, elle va être capable de beaucoup de choses. première chose, c'est que je plains, parce que 2%, ça reste quand même 2% de la population, hein, tous les gens qui ont un quotient intellectuel de 131. Je ne voudrais pas qu'on fasse des conclusions aussi hâtives que ce qu'on peut le faire par rapport à Monique Olivier, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bah, effectivement, je vais défendre un petit peu ma cause en disant, tiens, je trouve ça un peu surprenant que dans ce reportage, alors que rien n'est dit, rien n'est prouvé, on n'ait pas mis plus en exergue, si tu veux, cette différence de point de vue entre un quotient intellectuel qui avait été établi par les Belges et qui était de 96 et ce quotient intellectuel qui a été établi de 131. Là, et puis alors, de pouvoir dire, ok, posons-nous la question de ce qui se passe là derrière. Et ne nous réfugions pas directement derrière le quotient de 131 parce que ça arrange tout le monde que Monique Olivier a un quotient intellectuel de 131, alors que toutes les données cliniques s'accordent à dire, tout l'examen clinique de Monique Olivier, qu'effectivement, elle ne paraît pas avoir un niveau intellectuel largement supérieur à la moyenne. Mais il est vrai, je reconnais qu'il est plus facile de paraître bête quand on est intelligent que de paraître intelligent quand on est bête. On me l'a suffisamment accroché et Michel Chin, la réalisatrice, l'a suffisamment évoqué sur les plateaux de TV pour en faire quelque chose de vendeur. Oui, j'entends bien, mais un quotient intellectuel n'est non seulement pas une personnalité, mais en plus, ce quotient intellectuel, il vaut ce qu'il vaut, et il a été établi et revendiqué par quelqu'un qui ne l'a pas réalisé lui-même. Donc voilà, moi ça c'est mon témoignage personnel. Je peux te garantir par contre que le quotient intellectuel de 96, c'est bien moi qui l'ai fait.
Moi j'ai trouvé le reportage très intéressant. Par contre, ce que je trouve assez déceptif, c'est qu'effectivement, on voit, vous les psychologues, vous avez rencontré Monique Olivier chacun à plusieurs reprises, on vous voit dans des pièces différentes, à des moments différents, jamais confrontés l'un à l'autre pour parler, pour évoquer justement, peut-être pour échanger là-dessus. Et en fait, on nous promet de rentrer dans la tête de Monique Olivier. Et finalement, on rentre peu dans sa tête, on rentre peu dans les méandres de ce qui a fait qu'elle est passée de la femme perdue, seule, peut-être battue par son mari, comme c'était évoqué, à cette, entre guillemets, tueuse en série, complice de Michel Fourniret. C'est un peu ce qui manque peut-être à la fin. C'est, je suppose que toi aussi, ce qui t'a un peu laissé sur ta faim, si je puis dire.
Nicolas, hormis ce quotient intellectuel de 131 et le fait qu'on sous-entende qu'elle est manipulatrice, qu'est-ce qu'on sait de la personnalité de Monique Olivier après ces 5 épisodes? Absolument rien. Absolument rien. Et c'est ça qui est décevant dans le documentaire. Et c'est ça qui nous avait été vendu et qui faisait que moi j'avais accepté effectivement de réaliser ce documentaire, c'était de dire j'accepte la confrontation, j'accepte l'échange, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir un échange éventuel avec M. Ployer, qu'on puisse être autour d'une table, discuter ensemble, de savoir comment lui a perçu les choses, que savoir comment moi j'ai perçu les choses, pas refaire une cour d'assises, certainement pas, elle a eu lieu. Mais de pouvoir dire, si on veut faire un documentaire sur la personnalité de Monique Olivier, parlons personnalité et ne parlons pas de sensationnalisme. Maintenant, ça, c'est peut-être le choix de Netflix et qui est tout à fait louable et qu'on ne peut pas critiquer. Par contre, le choix de la réalisation et le choix de la production est, à mon sens, un petit peu critiquable par rapport à l'idée initiale. Et au niveau de la personnalité, on passe à côté de quelque chose de fondamental, je reviens sur ces lettres, mais dans ces lettres, on sait dire qui est Monique Olivier. On sait le dire. Et on sait, effectivement, on ne sort pas indemne de ces lettres, et on sait en tout cas dire qu'elle n'est pas l'instigatrice et la faiseuse de tueurs qu'est devenue Michel Fourniret, parce que c'est quand même ce qu'on a entendu aussi à un moment, c'est quand même que avant Monique Olivier, Michel Fourniret n'avait jamais tué. On ne sait rien, ça, c'est déjà la première chose. Et deux, Michel Fourniret n'avait certainement pas besoin de Monique Olivier pour avoir ses envies et ses pulsions meurtrières et ses envies de, excuse-moi l'expression, mais c'est celle qu'il utilisait, de membrane sur patte. Par contre, qu'elle ait facilité les choses à travers la disponibilité dont elle a fait preuve et qui est abominable, c'est vrai, mais sous emprise, ça c'est quelque chose de différent. Et ça, on aurait pu le comprendre et à travers sa personnalité dépendante, cette suspicion d'un trouble aussi, de type peut-être autistique, cette suspicion d'un trouble dissociatif, etc., qui est véritablement très, très bien évoquée dans les lettres et qui ressort quand même beaucoup plus fort que l'attitude qu'elle a à partir du moment où il y a des enjeux judiciaires. Monique Olivier, quand elle sent les enjeux, elle révèle les choses, mais quand elle va sentir les enjeux, je pense aussi que de manière très personnelle, très individuelle et très égoïste, elle sait qu'elle doit sauver aussi quelque part un peu sa peau et que donc plus elle va parler, plus elle va révéler des choses qui deviennent juste abominables, et plus on additionne les choses. Et donc, à ce moment-là, le silence devient pour elle quelque chose aussi d'inévitable, à travers aussi, en plus, augmenté par ce côté on-off qu'elle peut avoir à certains moments.
En même temps, c'est aussi étrange dans le reportage, parce qu'on la voit annoncer des choses, puis en fait, on dirait qu'elle pousse ses pions petit à petit, c'est-à-dire que même pour la petite Estelle Mouzin, c'est-à-dire qu'au début, elle sert d'alibi, puisque c'est elle qui a appelé, en faisant croire que c'était Michel Fourniret qui appelait son fils, puis raccroché pour l'anniversaire, puis ensuite elle dit que c'est elle, puis ensuite elle dit qu'elle l'a pas vu, puis ensuite elle dit que le corps est là. En fait, on a toujours l'impression d'être dans un gros jeu d'échecs avec Monique Olivier, où elle déplace ses pions. C'est là peut-être une partie de sa personnalité qu'on aurait aimé creuser.
C'est vrai. Maintenant, je te renvoie un peu la question. Quel est, si on y réfléchit bien, l'intérêt de Monique Olivier de procéder de la sorte, hormis éventuellement le fait de jouer avec les gens? C'est vrai. Son intérêt personnel, elle ne va plus rien gagner. Si, elle va aider la justice à avancer, mais jamais, jamais, elle ne s'est, elle, inscrite dans une volonté de venir manipuler la justice en disant « Tiens, je vais vous dire qu'il est là, bah non, finalement, c'est pas moi qui fais ça, c'est moi qui fais ceci, c'est moi. » Jamais elle n'a procédé comme ça. Michel Fourniret procédait comme ça. Et Michel Fourniret procédait tellement comme ça que même elle ne sait plus, quelque part, comment elle doit procéder à travers cette emprise que lui a fonctionné, qui fait qu'il a une personnalité qui déteignait quand même très très fortement. Parce que si on veut, Michel Fourniret, il avait un intérêt, c'était faire parler de lui, et c'était exercer le pouvoir sur le pouvoir. Et il aimait à dire d'ailleurs à la justice, personne ne sortira indemne de tout ça. Parce qu'il savait que lui allait à ce moment-là jouer très très fort là-dessus, décider de parler à certains moments, décider de ne plus parler, sombrer dans son mutisme effectivement, manipuler un petit peu, voire même beaucoup. Et donc en fait, il voulait avoir le pouvoir narcissique, psychopathique sur le système. Monique Olivier n'a jamais renvoyé cette image-là. Elle a juste renvoyé une image très agaçante de, à un moment, je dis ça, et puis à un autre, ben non, c'était peut-être ça, de quelqu'un de très hésitant qui a un brouillard monumental dans sa tête, sans doute parce qu'elle est dans une attitude de dénégation et sans doute parce qu'elle est dictée en permanence par la peur de quelque chose.
Oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est qu'on voit bien que Michel Fourniret est tout puissant, malheureusement, en tant que criminel dans la vie réelle lorsqu'il va tuer ses victimes. Et une fois dans l'univers carcéral, il est encore quasiment tout puissant parce qu'il décide ce qu'il va donner aux médias, ce qu'il va donner à la justice avec parcimonie. Il y a ce besoin qui est peut-être lié à tous les tueurs en série, cette espèce de mégalomanie permanente de vouloir être le centre de toutes les attentions. C'est quelque chose qu'on retrouve comme très caractéristique et psychologique chez eux.
En tout cas, dans la psychopathie, on parle des 3D, défi, déni, délit. Défier la justice, déni, c'est-à-dire à certains moments dire non, il n'y a pas d'autres meurtres, et puis à certains moments aussi, et délit, c'est-à-dire j'agis de manière toute puissante, peu importe respect ou non de la loi. Trois caractéristiques qu'on va retrouver chez Michel Fourniret. Au-delà de ça, ce qu'on va retrouver chez lui, c'est cette perversion narcissique, c'est-à-dire il se situe au-dessus, véritablement. Même durant la cour d'assises, il va être au-dessus de tout le monde. Même durant certaines expertises ou dans certains interrogatoires, où à un moment il va s'interrompre et où il va regarder ses mains et laisser supposer qu'avec ses mains il peut étrangler la personne qu'il a en face de lui, il affiche d'emblée sa supériorité en installant de la peur, etc. Il est vraiment dans cette mégalomanie toute puissante, psychopathique et perverse et narcissique. Monique Olivier, le narcissisme on ne le retrouve pas, la psychopathie on ne la retrouve pas, dans le sens où on a souvent posé la question de savoir, mais est-ce que Monique Olivier est encore capable, elle, de commettre un acte délictueux? À partir du moment où on retire Michel Fourniret de la vie de Monique Olivier, tout le monde s'accorde à dire que quelque part, Monique Olivier ne commettra plus rien. Donc elle n'est pas dans cette défiance et dans ce besoin psychopathique. On n'a pas le narcissisme, on n'a pas la psychopathie, mais on a une personnalité étrange, surprenante, heurtante, qu'on n'a finalement jamais investiguée et que ce documentaire n'a finalement pas non plus investiguée.
André Cottier, j'ai interviewé Jean-Luc Poyer hier. Toi, aujourd'hui, je crois que tu m'as donné l'idée, une fois que les podcasts seront parus, peut-être vous réunir tous les deux et faire une interview croisée.
Ah, mais avec grand plaisir.
Bon, Cottier, merci beaucoup pour cette interview et puis je te dis à très bientôt.
J'aimerais ajouter une dernière chose, Nicolas, si tu me l'autorises.
Tu as tous les droits.
On m'a de temps en temps qualifié de défenseur de Monique Olivier, voire même d'avoir été manipulé par rapport à elle. J'ai envie de dire, mais ça va pas, non, c'est complètement faux. On ne peut pas être défenseur de quelqu'un, mais on a des devoirs éthiques et moraux, nous, en tant qu'experts. Et je me pense, j'ai quand même une certaine bouteille dans le domaine, j'ai quand même de l'expérience par rapport aux personnalités et aux tueurs, etc. J'ai examiné les choses avec autant d'attention que ce que je n'ai pu le faire dans d'autres dossiers, mais je pense qu'on a été trop réducteurs de par l'ampleur des faits et de par le caractère abominable de ces faits. Et nous, notre rôle, c'est d'oser sortir de ça, même si ça choque. Et donc, il ne s'agit pas de défendre, mais à partir du moment où on nous demande, nous, de mettre en lumière la personnalité de quelqu'un, il s'agit de rester éthique.
Pas de défendre, mais de comprendre.
Exactement. Et parfois mettre de l'humain dans l'inhumain.
Gauthier, merci beaucoup.
Avec plaisir, Nicolas.
À très bientôt.
À très bientôt.